Donc j'ai écrit un cours spécialement pour aujourd'hui, pour un petit peu concentrer et rassembler toutes les données que nous avons vues d'une manière échantillonnée. Kedusha Eliona Einam Mezoha Davka Imruchaniut. C'est d'abord mettre les choses en place et comprendre qu'une sainteté, que la notion de sainteté, il ne faut pas la confondre spécialement avec de la spiritualité. On a tendance à croire que quelque chose de saint est forcément spirituel. C'est faux. Et Charlie Mso Touma Berouchani, la preuve c'est qu'on peut trouver de l'impureté dans la spiritualité. Il y a certaines spiritualités qui sont impures. Et inversement, on peut trouver Kedusha Bachomriut. On peut trouver de la sainteté, de la Kedusha, dans des éléments matériels. Donc en fait, il faut faire très attention de ne pas se perdre dans les notions et croire que sainteté égale spiritualité. Sainteté, c'est un autre degré. Et on va essayer de comprendre que représente cette sainteté, justement pour arriver à la compréhension, comment cette sainteté peut s'habiller, peut se révéler, peut se cristalliser dans de la matière, notamment dans les fruits. Yeshma Dregot Bakdusha. Il faut d'abord comprendre que la sainteté est graduelle. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, il y a des escaliers, il y a des niveaux. C'est que Chol She Hamasachim המבדילים בין הקודש העליון לבין גילויו השונים בבריאה מתמעטים, plus on enlève des écrans qui séparent, qui cachent le lien entre la sainteté divine supérieure et ses différents dévoilements dans ce monde, כך מתבררת יותר הקדושה. Ainsi la sainteté, la kedusha, est de plus en plus limpide, de plus en plus clair, de plus en plus révélé. Et l'achat d'avoir chayav le asot betnai. Mais il faut faire très attention, parce que quand on enlève des écrans, la lumière est plus grande. Donc il faut une condition, c'est que le fait d'enlever les écrans soit en fait à la mesure de ce que l'homme peut recevoir comme intensité de lumière. D'accord? Ça veut dire que les écrans ont un rôle à jouer. Donc il faut savoir quel écran il faut enlever et quel écran il ne faut pas enlever. Parce que si on enlève des écrans et on est face à la grande lumière, comme si on enlevait des lunettes de soleil, et on voulait regarder le soleil en face, ben ça brûle, c'est dangereux. Donc en fait, même les écrans ont un rôle à jouer. C'est pour ça qu'il y a des fruits avec des écorces. Donc l'écorce du fruit, elle est bénéfique, jusqu'au moment où je veux utiliser le fruit lui-même. Donc je dois éplucher l'écorce. Il faut que je fasse très attention à ne pas brûler parce que j'ai enlevé l'écran qui me différencie, qui me protège en même temps, qui me canalise, qui me rétracte la lumière, pour ne pas que je la reçoive avec sa force ultime. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des écrans. Asara Ma'amarot, les 10 paroles par lesquelles Dieu crée l'univers, ce sont 10 paroles qui jouent le rôle de filtre. Donc ce sont des filtres pour que sa lumière infinie se dévoile dans le monde, dans la création. Quelqu'un qui voudrait enlever ses écrans, sans prendre soin de préparer un ustensile capable de recevoir cette lumière, eh bien il brûle. Donc, Sarat Amasachim l'otigrom le mita, Mahmat Ribouyao. Donc il faut faire très attention de ne pas mourir de haut vers lumière. Quand il y a trop de lumière, il y a un problème. Écran. Écran, quelque chose de plus concret. Par exemple, il y a une vérité que je dois te dire. Si je n'habille pas cette vérité avec une image, avec un... Je prends soin de ne pas te blesser, j'habille ce que je vais dire, je peux te faire beaucoup plus mal. Et si je te prépare, et je te dis, tu sais, je t'aime beaucoup, il ne faut pas que tu l'oublies, mais je voudrais te dire quelque chose. Donc, je suis en train de faire des écrans pour te dire un message. Donc tu vas le prendre beaucoup plus facilement. Alors que si je viens et je te jette la chose à la figure, okay, ça peut te perturber, te casser, te briser complètement. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fait passer des messages, il habille ses messages dans une histoire. Dans quelle histoire il habille ses messages? Dans la Torah. Donc la Torah, c'est comme une histoire qu'on raconterait à un petit garçon, une petite fille. Donc Akadosh Baruch Hu nous raconte une histoire à travers une histoire. C'est-à-dire, il raconte notre histoire, notre vie, à travers une histoire avec des acteurs. Et donc, l'homme intelligent sait qu'il s'agit là d'une parabole, et donc il va traduire, il va savoir traduire les données à sa propre vie. Donc ça, c'est une forme d'écran. Est-ce que tu veux un autre? Une autre forme? Ça te suffit? Ok. D'accord. Amisgash imerke a kodesh, donc la rencontre, notre rencontre, avec les valeurs du kodesh, n'est pas forcément vouée à la mort. Ça veut dire qu'on a une tendance à croire que si on est face à des éléments de kodesh, on est obligatoirement mort. Et c'est justement ce qui a été développé malheureusement, c'est que la rencontre avec Dieu, avec l'infini, ne se fait qu'après la mort. Donc les gens se disent, après la mort, on verra la vérité. Alors, justement, est-ce que c'est obligatoirement? Est-ce que c'est une condition pour recevoir des valeurs de Kodesh? Est-ce qu'il faut mourir pour rencontrer Hachem?
Il faut se préparer.
Alors, il faut se préparer. Ça veut dire que la condition n'est pas la mort, au contraire. Ela chukim v'mishpatim asher siva Hashem Eloheinu la'asot otam. Et en plus de ça, il est écrit v'chay bahem. C'est-à-dire, il faut que tu vives. C'est pas pour te tuer, c'est pas pour te mourir, pour que tu meurs. Donc les valeurs d'Akadosh Baruch Hu, les idées d'Akadosh Baruch Hu, les éléments qui nous donnent de son monde infini, ne sont pas là pour tuer l'homme. Ça veut dire la rencontre ne passe pas forcément par la mort. Il faut arrêter de développer ce genre d'idée. C'est faux. Les valeurs d'Akadosh Baruch Hu devraient passer par la vie. C'est-à-dire plus tu étudies la Torah, plus tu imprègnes ta vie, tu t'imprègnes de ces valeurs, plus tu es vivant. Ratem ad debekim pashem elohechem chaim kulechem hayom. Plus vous êtes coller, plus vous adhérez à cette valeur divine, plus vous devriez être vivant. Donc je peux presque dire qu'on peut tester ceux qui sont réellement dans la Torah ou pas, par rapport au degré de vie, de vitalité qu'ils ont. Si je vois quelqu'un d'éteint, ben, il a beau étudier toute la journée la Torah, je vois que la Torah n'est pas bénéfique pour lui. Ça devient quelque chose de dangereux. Donc il faut changer quelque chose dans ton approche. Mais si quelqu'un étudie la Torah et je vois qu'il est de plus en plus vivant, de plus en plus heureux, de plus en plus joyeux, de plus en plus optimiste, ça veut dire que la Torah est bénéfique pour lui. C'est comme ça que ça devrait être. Akadosh Baruch Hu n'est pas triste. Il n'y a pas de tristesse chez lui. Ça n'existe pas. Baruch Eloheinu she'asimcha bim'ono. Akadosh Baruch Hu, il n'y a que Simcha. Et il nous demande, et Yivdu et Hashem, Besimcha, si vous voulez me servir, soyez dans la Simcha, sinon ça ne m'intéresse pas. Sinon vous vous faites du mal. Quel?
Alors parfois, tu vois, on a l'impression, peut-être moi, que des personnes très très religieuses, quand on passe dans certains quartiers, on l'air justement, ça et pas nous, et
super. Alors pose-toi des questions. Parfait, c'est la prochaine étape. Tiens, pose-toi des questions. Tu as raison. C'est pas ça. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Je continue donc à Mizgash Imerka Kodesh Eino Mechayev Mita. Le fait de rencontrer des valeurs de Kodesh n'est pas voué à la mort. Asarata Mechitzot, lorsque j'enlève les écrans, Naaset Derech Kiyuma Mitzvot. Comment est-ce que je peux réellement enlever des écrans sans mourir de over lumière, de trop de lumière, en me protégeant? Eh bien, c'est l'application des mitzvot. Si je sais réaliser les mitzvot, en réalité, je m'enduis comme si j'enduisais mon corps d'une crème solaire qui me permettrait de recevoir la lumière divine sans brûler. D'accord? Alors, comment est-ce que les mitzvot marchent? Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah? Quand je fais une mitzvah, je m'ouvre à la circulation de l'infini à travers moi. Par exemple, je suis en train de faire une mitzvah maintenant, d'enseigner la Torah. C'est une mitzvah. Et vous, vous êtes en train de faire une mitzvah, d'étudier la Torah. Donc on est en train de faire une mitzvah ensemble, d'une manière générale, d'étude. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en réalité? Et on est en train de faire descendre des valeurs d'infini dans notre monde. À travers notre mitzvah, Dieu se dévoile un petit peu plus. On apporte un petit peu plus de lumière. Ça veut dire qu'après ce cours-là, il y aura plus de divins sur terre qu'il y en avait avant, grâce à ce que nous avons fait ensemble. Donc la mitzvah me rend en réalité associé à Kadosh Baruch Hu, puisque je deviens associé à lui dans son dévoilement. Donc la racine du mot mitzvah, c'est quoi? C'est sevet. Sevet veut dire une équipe, équipage. Donc je fais équipe avec la lumière divine. Et donc elle passe à travers moi au moment où j'applique la mitzvah. C'est comme si Akadosh Baruch Hu montait dans un top, dans une voiture, pour arriver sur terre. Et quel est le véhicule en question? La mitzvah que je suis en train d'appliquer. Donc Dieu profite de la mitzvah que je suis en train de faire, il plonge dedans, et il y a certains degrés d'infini de plus qui se dévoilent sur terre. Donc la Torah, en fait, elle, c'est la lumière divine, elle arrive dans ce monde grâce aux mitzvot. Et donc, Veskar, et ainsi, Zormim Erke Ha'enso, les valeurs de l'infini, béni soit-il, coulent, ou circulent, Zorem, Beorke Ha'Briya, dans les veines, dans les artères de la création. Donc la création, c'est comme un corps humain, plein de veines et d'artères, et la circulation sanguine, c'est en réalité la circulation des valeurs d'Hachem dans notre monde. Qui arrive à faire ça? Qui fait ça? Les mitzvot. D'accord? Donc les mitzvot, ce n'est pas l'application d'un ordre divin qui a été donné par quelqu'un de très loin qui me dit fais ça ou sinon tu vas être puni. C'est fais ça parce qu'à travers ce que tu es en train de faire, moi je me dévoile. Donc en réalité, à qui appartiennent les mitzvot? À Hachem. Pas à nous. Est-ce que vous avez une mitzvah? Est-ce que tu as une mitzvah qui t'appartient? Non. Tu peux me donner une preuve? Oui, mais est-ce que je veux une preuve réelle? On dit quelque chose pour prouver que ce n'est pas les nôtres. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav. Ce sont ces mitzvot, pas les miennes. Donc, si ce sont ces mitzvot, moi, qu'est-ce que je fais? J'applique ces mitzvot. Donc, elles lui appartiennent. Et moi, je suis un véhicule pour dévoiler, pour révéler, pour cristalliser ce qui lui appartient. Si ce sont ces mitzvot, est-ce qu'il peut m'ordonner de faire quelque chose que lui-même ne fait pas? Non, c'est impossible. C'est-à-dire que, est-ce que je peux dire qu'Akadosh Baruch Hu, qui m'a ordonné de mettre les tefillines, lui aussi met des tefillines? Bien sûr. Bien sûr, c'est marqué dans la Gemara. Les Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu met les tfilines. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il met les tfilines? Bien entendu, il ne va pas prendre des peaux d'animaux et les mettre comme nous, les hommes. Mais il a sa manière à lui de mettre les tfilines. À tel point que les sages vont nous poser la question, qu'est-ce qu'il est écrit dans les tfilines d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Réponse, « Umi ke'amcha ke'Israël go'yechad ba'aretz » Qui est comme ton peuple Israël sur terre? C'est ce qui est écrit dans les boîtiers de tfilines spirituels de l'infini. Alors que chez nous, qu'est-ce qui a marqué? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu, unique dans l'unicité parfaite. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une histoire d'amour. Donc, que veut dire le mot tfilin, par exemple? C'est un exemple que j'ai pris. C'est la racine du mot. Tfila. Tfilin au singulier, c'est tfila. D'ailleurs, on ne peut pas dire tfilin chez Liad et tfilin chez le Roche. C'est une erreur grammatical. On dit Tfila chez Eliad. Les Tfilines, c'est les deux. Donc Tfila chez Eliad. Donc que veut dire le mot Tfila? Quelle est la racine du mot Tfila? Tfil. Tfil qui veut dire une mèche. C'est-à-dire je suis de mèche avec. Quand on dit en français je suis de mèche avec, c'est-à-dire on est dans la même équipe. Donc je suis relié en fait. Donc la tfila, c'est un lien. Donc les tfilines, c'est un lien avec les valeurs de l'infini. Qu'est-ce que je fais quand je fais tomber chas v'shalom des tfilines par terre? D'abord, avant de jeûner, je les lève et je les embrasse. Pour montrer mon affection. Et après, pour me prouver que quelque chose de mal, je me sens mal de les avoir fait, je les caresse. Je les embrasse. Et après, je vais un petit peu faire un acte symbolique qui va me montrer que quelque chose de traumatisant s'est passé. Que fait Akadosh Baruch Hu lorsque cette filine tombe? C'est Israël. Nous sommes cette filine. Quand Israël tombe dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? C'est la même chose. Il nous lève, il nous embrasse, il nous enlace. Et lui aussi ressent, entre guillemets, un certain traumatisme de notre thème.
Je sais quoi la phrase qu'on a dit,
il a écrit dans le film d'ailleurs. Qui est comme toi, le peuple d'Israël, une seule nation sur la terre. Donc vous comprenez qu'il s'agit ici donc de valeurs, ça c'est avant de rentrer dans les notions de sainteté. Il y avait une question jusque-là? J'ai répondu plus ou moins? Ok. Ayahadut eina dat. Conclusion. Le judaïsme n'est pas une religion. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire que ça n'est pas une religion? Sheifa enoshit la'alot el Hashem. Ce n'est pas un désir humain de monter vers Dieu. C'est pas ça le judaïsme. Pourquoi ça ne peut pas être ça? C'est pas un désir humain de monter vers Dieu. Si c'était ça le judaïsme, ça voudrait dire que l'homme est capable de monter vers Dieu, donc il est capable de le... Non, de le limiter. Si je monte vers lui, ça veut dire qu'il n'est pas là. Si je vais vers quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas omniprésent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec mon petit cerveau, je m'imagine pouvoir aller vers quelque chose, atteindre quelque chose, donc j'ai limité. Ça veut dire Dieu à la grandeur de quoi? De mon cerveau. Ça veut dire montrer? Ils ont montré un dévoilement. C'est autre chose. C'est-à-dire une manifestation du divin sur terre, comme je suis en train de te montrer.
Mais du coup,
c'est fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu, mais on peut voir certains de ses manifestations. C'est tout. On ne peut pas le voir dans son entité, c'est impossible. Si tu pouvais le voir, ça voudrait dire qu'il était limité. Qu'il a un corps, qu'il a une structure, qu'il est limité dans l'espace. Donc s'il est limité dans l'espace, lorsqu'il est là, il n'est pas là. Donc c'est de la Avodah Zara. Alors qu'est-ce que tu vois quand tu vois réellement, par exemple, au don de la Torah, tu vois une manifestation? Ben, c'est une manifestation de l'infini. Mais ça n'est pas tout. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a reçu au Mont Sinaï? La Torah ou une Torah? Une Torah, pas la Torah. D'où je sais? Remarquez, Moshe Kibel, Torah, ni Sinaï. Si je voulais dire toute la Torah, Kibel HaTorah, c'est faux. Alors que lui, à Kadosh Baruch Hu, il donne combien de Torah? Il dit, il donne tout. Mais nous, on n'est pas capable de recevoir ce tout. Donc, Baruch Ata Hashem Noten Ha Torah. Et même moi, quand je reçois Torah. Vous comprenez la différence? C'est énorme. Donc, à chaque fois qu'on dit que quelqu'un a vu, comme par exemple dans la traversée de la mer, on a lu Shabbat, Ra'ata Shifra Al-Hayam Mashelora'a Yecheskel Ben Bozi Hanavi. Et la plus petite des servantes, c'est-à-dire la femme la plus simple du peuple d'Israël, a vu ce qu'un grand prophète n'était pas capable de voir. Alors qu'est-ce qu'elle a vu? Elle n'a pas vu Dieu, on ne peut pas voir Dieu. On voit des manifestations. Donc qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu l'identité d'Israël dans son sommet le plus profond. C'est ça qu'elle a vu. Elle a vu en réalité sa structure, de quoi elle était faite. À partir du moment où je rencontre ma structure, ma propre structure, comme si je me regardais dans un miroir, je me dis, waouh, c'est ça que je suis. Maintenant, je sais ce que je dois faire.
Et alors, on va dire que le plus grand dévoilement, ça a été Matan Torah. Le dévoilement le plus important pour le peuple.
Avec une continuité par rapport.
Pas forcément. La preuve, tu le dis dans la Agada de Pessah. S'il nous avait rapproché du Mont Sinaï et il ne nous avait pas donné la Torah, d'ayez-nous. Et comment d'ayez-nous? Tu comprends? Ça veut dire qu'on reçoit. La Torah, c'est une phase dans la réception de ces valeurs de l'infini. Alors, c'est vrai que ça a une importance très importante, c'est capital, t'es? Mais il y a encore des degrés. Notamment le degré que je viens de vous dire, dans la traversée. On a trouvé là-bas des choses, on a chanté, on est arrivé tous à une prophétie. Qu'est-ce? Okay. Alors, la Torah en réalité n'aurait pas dû être donnée. On n'a pas besoin du don de la Torah. La Torah a été donnée parce qu'on n'était pas capable nous-mêmes de comprendre de quoi, de quelle matière nous sommes faits. C'est-à-dire que la Torah, elle est écrite où, en fait? Non. Elle est inscrite où, la Torah? Dans notre matière, dans notre vie. La Torah est gravée dans nos vies. Malheureusement, si je ne suis pas capable de la lire dans ma vie, on est obligé de me donner un texte. Ça veut dire qu'en réalité, ce texte prouve ma faiblesse. Parce que si j'étais capable de m'auto-lire d'une lecture de soi à un très haut niveau, c'est-à-dire je vis la Torah comme je devrais le faire naturellement, je n'aurais pas eu besoin d'un texte. Est-ce que vous connaissez des êtres qui était à ce niveau-là sans avoir besoin de Torah? Il a fait Abraham, non? Abraham, Isaac, Yaakov, n'avait pas de Torah. Et pourtant, ils vivaient la Torah. Et les sages nous disent qu'ils appliquaient toutes les mitzvot, qu'ils savaient tout. Et comment tu peux appliquer des mitzvot si tu n'as pas reçu la Torah? Tout simplement parce que tu sais lire. Et intuitivement, tu te dis, attends, quand je mange du lait, je ne peux pas manger de la viande. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Mais attends, on t'a même pas donné une mitzvah, oui, mais ça n'a pas besoin de la donner, puisque c'est inscrit dans ma vie. Vous le dites, non? Vechaye olam nata betochenu. Alors si c'est dans ma vie, j'ai pas besoin d'un texte qui vienne me rappeler ce qui est dans ma vie. Mais si oui, on me donne un texte, c'est que je ne suis pas capable, malheureusement, de me lire. Il y a fait. Alors cette Torah-là, normalement, okay, en entrant en Eretz Israël, si on n'avait pas fauté en fait, ok? Eh bien, on aurait dû normalement recevoir la Torah d'une manière naturelle, c'est-à-dire sur la terre. Et si la Torah était donnée en terre d'Israël, elle n'aurait pas été donnée de cette manière-là, mais d'une manière beaucoup plus naturelle. D'ailleurs, il y a eu un deuxième matin de Torah en Eretz Israël. Vous vous rappelez quand? Au moment où le peuple se tient sur le mont Grizim et sur le mont Ebal. Quand on rentre en Eretz Israël, on est à Shrem. À Shrem, c'est une vallée entre deux montagnes. Qui se met entre sur les deux montagnes? Les tribus. C'est-à-dire 6 tribus sur une montagne, 6 tribus sur une autre montagne. Et les Lévim, qui sont en réalité les vecteurs, les conducteurs, sont dans la vallée. Ça vous rappelle quoi? d'un cheminement qui est exactement l'inverse du mont Sinaï. Au mont Sinaï, c'est un triangle, c'est la montagne, elle est pleine. En Israël, c'est une montagne vide, puisque c'est une vallée. Ça veut dire que ce qui était plein sur le mont Sinaï, qui était au-dessus, Akadosh Baruch Hu et Moshe, qui est en bas, le peuple. Et là, en Eretz Israël, Dieu est en bas et le peuple est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah d'Eretz Israël, elle vient d'où? Elle vient du ciel ou de la terre? De la terre. Alors que dans le désert, la Torah est obligée de venir du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle vient du ciel? Qu'elle est comme étrangère à moi. C'est pas vrai. Elle n'est pas étrangère à moi. Il faut que j'arrive à comprendre que la Torah est issue de moi, de ma matière, de ma terre. Si j'arrivais à cette lecture-là, eh bien, je serais à un autre niveau. Donc, Akadosh Baruch Hu est obligé, entre guillemets, obligé de compléter le don de la Torah au Mont Sinaï par un deuxième don de la Torah à l'entrée des Eretz Israël à Shrem. D'accord? Et en plus de ça, ça continue après. Il y a plusieurs lectures de cette Torah. D'ailleurs, le don de la Torah tel qu'on l'a reçu, est-ce que c'était la première tentative de Dieu de donner la Torah au monde? Est-ce que vous vous rappelez d'une autre tentative, d'une autre période? Il y a fait, mais on, à la période de Noah, c'était une tentative divine, entre guillemets, d'apporter la Torah au monde. Alors là-bas, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a prouvé qu'il n'était pas encore capable, ni prêt. Donc ça s'est transformé en quoi? En déluge. Donc vous comprenez ce que je vous ai dit dans la première ligne? Si la Torah est trop forte pour toi, ça devient quoi? Un déluge. Qu'est-ce que c'est un déluge en fait? C'est une pluie, mais qui n'est plus une pluie goutte à goutte. C'est une pluie qui, comme si c'était un tuyau d'eau énorme qui me tombait dessus. D'accord? Qui s'abat sur le monde. Donc, quelle est la bracha qu'il y a dans la pluie? C'est que ce même tuyau d'eau, il vient en goutte à goutte. C'est-à-dire que toutes les gouttes sont séparées. Aucune goutte ne se touche dans le ciel, vous savez? C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois en fait comme un grand message découpé en morceaux. Pourquoi je te fais ça? Quand vous aurez un bébé, vous allez comprendre. Tu ne pourras pas lui donner un steak. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui couper le steak en tout petits morceaux et tu vas commencer à lui rentrer dans la bouche des petits morceaux. Vous comprenez comment Akadosh Baruch Hu nous aime? Il nous nourrit comme un bébé. Au lieu de nous donner un grand steak, c'est-à-dire tout le message d'un coup, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce message? On étouffe. Eh bien, il nous coupe ce morceau de viande en 10 000 parties et tout doucement, en plus de ça, il nous raconte des histoires pendant qu'il nous fait rentrer dans la bouche. Comme tu vas faire avec ton fils ou ta fille. Okay? Alors, ça, c'est le maboul. Donc, en réalité, qu'est-ce qui manque dans le maboul, en fait? Si je veux revenir un petit peu, puisque tu as soulevé ce degré, tu as raison. Qu'est-ce que c'est que le maboul? Quelles sont les lettres du mot maboul? Si vous inversez les lettres dans le mot maboul, qu'est-ce que vous trouvez? Non? Sans rajouter de lettres. Les mêmes lettres. Oui. Bolem. Qu'est-ce que c'est bolem en hébreu? Balam. Vous savez ce que c'est un balam? Vous conduisez? Tu appuies sur le frein. Un frein, c'est bolem. Un ibolem. Break, c'est en anglais. Okay, ouais, mais en réalité, c'est balam. Donc, blamim. Blamim, c'est les freins. Donc, bolem, qu'est-ce qui manquait en fait dans le déluge? Un frein. Donc, Dieu a donné la totalité sans freiner. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Noyé, overdose. D'accord? Donc on est mort d'overdose. Mais qu'est-ce que c'était cette dose de quoi? De Torah. Combien de temps la pluie est descendue avant que ça s'appelle Maboul? 40 jours. Exactement comme les 40 jours que Moshe est monté dans le ciel. Donc en réalité, tu vois que la Torah a été donnée à plusieurs générations différentes jusqu'au moment où ça a accroché. C'est là? Alors, on continue. je reprends. Hayadut eina dat. Donc là, le judaïsme n'est pas une religion. Klomar, c'est-à-dire ce n'est pas une sheifa, un désir enoshi, humain. La alot el Hashem, de monter vers Hashem. Kevan shegisha kazot metsamtsemet ou megamedet. Parce que une approche telle que celle-ci, style je monte vers Hashem, ça rend Hashem nain. Ça le rend nain. C'est-à-dire, quelle est la mesure d'Hashem? Beofia, subjective, et tout devient subjectif. À qui? À moi. Parce que moi, je ne peux pas voir la totalité. Je suis bloqué, je suis limité dans mon approche. Donc, megamedet beofia a subjective. Et elle va rendre nain avec sa nature subjective. Et Hashem idbarach, Hakadosh Baruch Hu, les ramat sikhlo verikshotav shel Adam. Et quel niveau, quelle grandeur je vais donner à Hashem? La grandeur de mon cerveau et la grandeur de mes ressentis. C'est ça Hashem. Ce que tu ressens, c'est Hashem. Ce que tu penses et ton cerveau te dit, c'est Hashem. Pas du tout. Tu es tellement limité, loin de ces valeurs d'infini, que Chas v'Shalom, si tu pouvais définir comme ça Hashem, on ne peut pas le définir. Donc tu ne peux pas monter vers Hashem. Ça ne veut rien dire monter vers Hashem. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Je vous pose la question, si je ne peux pas monter vers Hashem, si la religion, si le judaïsme n'est pas une religion, qu'est-ce que je dois faire alors?
Faire descendre.
Et faire descendre Hashem sur toi. Et est-ce que je peux le faire descendre? Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre? Ça veut dire qu'il est là-bas et maintenant il est ici? Donc il est partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire descendre? Le révéler. Mais est-ce que je révèle le tout? Je ne peux pas révéler le tout puisqu'il est infini. Donc je révèle ce que je peux. En tout cas, à ce moment-là donné, par exemple maintenant, dans notre cours, je révèle ce que je peux de cet infini. Ça, c'est plus de la religion, vous comprenez? C'est clair.
C'est vrai que j'ai du mal à comprendre spiritualité et... Ok, c'est pas de la religion. Okay, mais ça veut dire que c'est quand peut-être qu'on passe des sens de spiritualité?
Il n'y a pas spirituel, non. Parce que si tu dis spiritualité, ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas dans la matière.
Oui, mais le fait de le faire descendre...
Encore une fois, descendre ne veut pas dire du haut vers le bas.
Oui, le fait de réaliser...
Oui, réaliser, dévoiler.
Oui.
Et alors, tu utilises quoi en fait de ton corps?
Ça dépend, je peux utiliser...
Tout. Tu dois tout utiliser. Et ton corps physique, jusqu'au bout de tes pieds, et aussi tes valeurs d'esprit, tes ressentis, ton imaginaire. Est-ce que toutes ces choses-là participent lorsque tu dévoiles Hashem? C'est ça que ça devrait être. Mais si la Torah ne devient que cerveau, c'est-à-dire cérébral, eh bien, toutes les autres parties de ton être sont paralysées. Tu n'utilises que ton cerveau pour révéler Hashem, c'est faux. D'accord? Donc, Inyan Torah, hu lehavi et haKodesh haMekori. Donc, qu'est-ce que c'est que la Torah en fait? Toute son idée, c'est d'apporter les valeurs du Kodesh. Mais quel Kodesh? Le Kodesh initial, le vrai Kodesh, c'est-à-dire haKodesh Baruch Hu. C'est ça son vrai nom. C'est pas haKadosh Baruch Hu. Ça aussi, c'est une faute.
Okay?
C'est une faute. Tout ça, c'est des fautes. Ça serait marqué nulle part haKadosh Baruch Hu. Ça, c'est une expression qui vient du Zohar, et le Zohar ne dit jamais HaKadosh Baruch Hu, il dit HaKodesh. Pourquoi c'est important de signaler ça? Non, non. Kadosh, c'est quoi? Zé Kadosh. Ça veut dire, ça a subi la sainteté. Kodesh, c'est la source. Donc tu ne peux pas dire celui qui subit la sainteté en parlant de la source. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, que je suis en train de dire maintenant une faute, c'est quelqu'un qui a reçu de quelqu'un de plus haut. Donc la véritable traduction c'est Kucha Berichu. C'est comme ça que le Zohar dit. Kucha Berichu. Et en hébreu c'est Hakodesh Baruch Hu. Kucha Berichu. D'accord? Très important. Donc, les avis et sa kodesh, c'est pour ça que je fais attention à ce que j'écris. J'essaie d'être le plus précis possible. Donc, les avis et sa kodesh amekori, donc toute la Torah, c'est essayer de faire venir le kodesh initial, donc Akadosh Baruch Hu, et la metsiout atartona, dans l'existence inférieure, c'est-à-dire dans l'existence dans laquelle nous sommes. Quand je dis inférieur, c'est pas encore une fois en haut et en bas. Ne faites jamais comme ça, ça donne beaucoup. Faire attention, ne pas, dans la tfila même, les chachamim nous disent attention de ne pas lever les yeux vers le ciel. Parce que c'est chrétien. Qu'est-ce que disent les chachamim pendant la tfila? Que tes yeux doivent être en bas et ton cœur vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en réalité omniprésent. Tu ne peux pas le jeter là-bas dans le ciel, notre Père qui est aux cieux. Restez-y. T'as raison. Tu as raison. Mais le problème, c'est que ça s'est traduit au fur et à mesure du temps. À quoi? À ce que Dieu se trouve dans le ciel. Non. Ils ont tout simplement élevé leur regard à un niveau supérieur de l'existence. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit « Vaïssa et Aina, Vaïar et Hamakom et Rachok », Abraham, il a levé les yeux et il a vu le « Makom », le lieu, entre guillemets, de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois qu'il a fait comme ça? On n'est pas dans un film indien. Hein? Ça veut dire qu'il a levé, qu'il a élevé son regard. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous n'êtes même pas bougé de votre place. Mais vous êtes en train d'élever votre regard à la Torah. C'est-à-dire que vous êtes en train d'étudier une Torah à un autre niveau que le premier niveau. Ça s'appelle s'élever. Exactement. Mais en réalité, sans bouger. Donc, Akadosh Baruch Hu se trouve en haut et en bas. Comment est-ce que je sais qu'il se trouve en haut et en bas? Toi, tu crois qu'ils se trouvent en haut, et les anges, qu'est-ce qu'ils croient? Ils se trouvent en bas. D'où est-ce que je sais? C'est marqué. Les anges posent la question, « Aïe, mais comme Kevodo le Haristo. » En réalité, c'est très simple. Les anges, c'est en réalité tout simplement une expression, une excroissance d'une chose. Par exemple, ma main, c'est un ange pour moi. Donc je l'envoie faire un message, voilà. Elle est en train d'obéir à mon cerveau. Donc mon ange, maintenant, n'a pas de libre arbitre. Donc il a obéi tout simplement, il s'est mis en condition pour faire ce que mon être intérieur lui a ordonné de faire. Donc ma main est un sadique. Parce qu'elle obéit parfaitement à mon cerveau. Si chas de shalom, l'homme a une maladie, qu'il a des problèmes moteurs. Donc même lorsque le cerveau lui dit « prends ce verre », il n'arrive pas. Vous comprenez la différence? Mais c'est la même chose. Un ange, c'est tout simplement une volonté divine qui se manifeste. Comme si c'était un bras. Comme si c'était une jambe.
Pourquoi il y a une autorisation de représenter les cheveux d'un au
bâtiment? Bien fait. En réalité, qu'est-ce que tu représentes au Betamikdash? Ce n'est pas des anges. Il y a un... Oui, mais qu'est-ce que c'est chérubin? Chérubin, c'est une expression française. Ça ne marque nulle part, chérubin. C'est kérouvim. Non, c'est pas ça. Kérouvim, qu'est-ce que ça veut dire kérouvim? Dit la Gemara. Quelle est la traduction réelle du mot kérouvim que vous traduisez par chérubin? Ça ne veut rien dire. Keravia. Keravia, c'est la racine, ça veut dire des bébés. Des bébés. Alors, qu'est-ce que je m'en fiche que ce soit des bébés? Eh bien, vous savez à quoi ressemblaient les deux chérubins? Un avait le visage d'un garçon, et l'autre le visage d'une fille. Et en réalité, c'était quoi? C'est tout simplement une expression d'Akadosh Baruch Hu et de l'Assemblée d'Israël. Comme si c'était un mariage entre Hachem et l'Assemblée d'Israël. C'est tout. Aucun rapport avec les anges, les machins et les trucs. Il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons, quand il y a un ordre qui vient d'en haut, donc ce n'est pas une religion, c'est lui qui me dit de faire comme ça, j'ai le droit de représenter, quand c'est un ordre divin, je rappelle, une expression dans ce monde qui me rappelle en fait notre relation de couple. Et donc dans l'endroit le plus sain dans le sein des saints, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accouplement entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire quoi? Et que j'ai le droit de représenter. J'ai une mitzvah de représenter ça. Ça veut dire, si c'est, et alors qu'à l'extérieur, j'ai pas le droit de représenter ça. Donc si ça vient pas d'en haut, moi j'ai pas le droit d'inventer des choses. Si j'invente des choses, je reviens à la religion. J'ai pas le droit d'inventer des choses. Si c'est lui qui me dit de faire 1, 2, 3, 4, 5, alors je fais. Il y avait une mitzvah. Nachon, nachon. Shira Shirim, c'est quoi de Shakodashim? Pourquoi? Il ne parle que d'une relation intime entre un homme et une femme, qui en réalité sont des références à Akadosh Baruch Hu et à l'Assemblée d'Israël. D'accord? Donc, Ezrat Hashem, quand vous allez vous marier, où est le saint des saints de votre maison? La chambre à coucher. C'est bizarre. Ah, tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas compris la Torah, il va te dire Chas de Shalom.
Justement, c'est de ça qu'on parlait hier. On disait que justement, on disait que ça pouvait être du Chol.
Il y a fait méode. Il y a fait méode. Qui c'est qui vous a donné ce cours? Il y a fait méode. Il y a fait. Donc qu'est-ce que c'est Kodesh HaKodashim? C'est le Kodesh habillé dans le Chol. Il y a fait méode. Alors que Kodesh seul, c'est quoi? C'est séparé. Donc le véritable Kodesh, le Kodesh HaKodashim, l'ultime Kodesh, c'est quoi? C'est lorsque tu vois la vie d'une manière globale. C'est-à-dire que tu ne jettes pas Kadosh Baruch Hu là-bas et le Chol ici, Chas v'Shalom, le profane et le sacré. Non, c'est tout une seule et même unité. Donc Kadosh Baruch Hu a créé mon corps comme il a créé ma Neshama. C'est le même créateur, faire attention. Malheureusement, quand on ne comprend pas ça, on néglige le corps. D'accord? On dit que le corps... C'est rien, c'est Sam, de la chair. Alors que l'essentiel, c'est un échama. C'est pas juif, ça. Faire attention à ça. Tu dois respecter ta échama et ton corps. Donc tu dois tout faire pour être en bonne santé. Parce que si tu es malade, qu'est-ce qui se passe avec l'échama? Elle peut plus se dévoiler. Elle ne s'affaiblit pas. Mais son dévoilement s'affaiblit parce que ton corps est malade. Et ton corps, c'est son dévoilement. Elle ne trouve pas comment se dévoiler, se réaliser. Et Chas v'Shalom, quand elle n'en peut plus, qu'il n'y a plus, le corps ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va complètement. Et quand elle s'en va complètement, ça s'appelle comment ici? La mort. Alors regardez en hébreu comment c'est fort. Comment on dit le profane? Chol. Mais en réalité, ce n'est pas le profane. C'est en réalité la possibilité de dévoiler un Kodesh. Comment on dit se poser sur la choule, al. Donc c'est une capacité à déposer en soi le Kodesh. Mais si ce chol là, il devient malade, il vient rajouter une lettre au mot chol, cholé ou chola. Et si chas v'shalom ça s'aggrave, tu transformes le hé de chola en lamed, ça devient halal. Et qu'est-ce que c'est halal? Un mort. Oui, halal, ça veut dire un mot. Tiré par les cheveux.
Oui.
Non, c'est pas tiré par les cheveux. Non, 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 pas du tout, parce que ça c'est ce que je vous dessine maintenant. Mais si vous compreniez le sens des degrés, okay? En hébreu, la roule, c'est se déposer. Se déposer la choule. Ça, c'est le mot chol, c'est le véritable sens du mot chol. C'est-à-dire, chol, c'est une capacité à quoi?
À recevoir.
Quelque chose qui se dépose sur moi. Donc, si cette capacité, chas v'shalom, elle s'aggrave, elle ne peut pas faire, elle ne joue plus son rôle, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans la dispersion. Qu'est-ce que c'est que la dispersion? Mais c'est la lettre He. Parce que la lettre He est formée d'un dalet, qui est les quatre directions. Mais heureusement qu'elle a un petit yud à l'intérieur qui la protège. Je vous explique.
Comment est-ce que tu, même en français, vous connaissez cette malédiction, va aux quatre vents?
Non.
Eh bien, ça, c'est une malédiction, ça veut dire disperse-toi. Tu vas t'exploser en morceaux, tu n'existes plus. Et ça, c'est Chas de Shalom, la plus grande des maladies. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous sommes en réalité? C'est la mémoire qui est à l'intérieur du Dalet, c'est notre mémoire. Donc, en réalité, tu peux tomber malade, mais dans la maladie, il y a aussi la possibilité de guérir. Mais si tu n'arrives pas à guérir, les Chas de Shalom, tout ce degré devient vide. Halal veut dire vide. Comme Khalil, comment on dit, une flûte. Donc, Khaloul veut dire quoi? Un canal vide. Donc, halal veut dire mort. Vous vide de quoi? Vide de la lumière, de la Nishama. Donc, tout ça, c'est une aggravation des choses. Et ça va petit à petit. Alors que, si tu arrives à remettre les choses en place, eh bien, tu repars du halal vers la guérison. Comment on dit guérir en hébreu? Non? Les hachlim. Donc, c'est à toutes les lettres qui reviennent en réalité dans la mahala, maladie. Il y a l'inverse de la maladie, hachlama. Ce sont les mêmes lettres. Vous comprenez comment c'est très fort, c'est une langue du Saint béni soit-il. C'est pas des inventions humaines, on n'a pas inventé des mots. En français, les mots n'ont pas de source divine. C'est une acceptation humaine. En anglais, en espagnol, ce que vous voulez. Mais dans la Torah, c'est pas ça. Chaque mot, c'est une création divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous apprend comment définir les choses dans ce monde. Donc si la mahala s'appelle mahala, ça veut dire qu'en elle, il y a déjà toute la possibilité de guérir. Mais il faut que tu le trouves. Il faut que tu inverses certains processus qui est en désordre, il faut remettre en ordre. Okay? En français, la maladie, il n'y a pas un terme qui est avec les mêmes lettres que maladie qui veut dire guérison. Tu comprends? Et tout ça, ça vient de quoi? Si vous voulez un petit peu plus loin, de ce qui se trouve dedans. Chalom, le rêve. C'est-à-dire si tu continues à rêver, eh bien, tu guéris. Quelqu'un qui n'a plus de rêve, pas rêver la nuit. C'est-à-dire que tu n'as plus de rêve dans ta vie. Que tu n'as plus d'espoir, de, comment on dit, que tu as envie de devenir quelque chose. D'ambition, tu n'as plus d'idéaux, tu n'as plus rien, tu vas nulle part. Ça, c'est le début de la maladie. D'ailleurs, tout ça, ça va apparaître. Et juste pour vous montrer tellement c'est profond, okay. Les sages nous disent qu'il faut manger 2 tranches de pain le matin. Lechem. C'est bizarre. Et quand tu manges du pain, quand tu fais un motzi, tu trempes le pain dans quoi? Comment ça se dit? Mais là, c'est les mêmes lettres. Ça commence à faire peur, non? Ça veut dire que tout ça, c'est une guérison. Et si tu te fais, en réalité, tu fais ça, eh bien, tu sors de ce rôle qui ne pouvait plus gérer la lumière. Comment on dit se faire pardonner? Mechila, machal, c'est les mêmes lettres. D'accord? Alors que si tu continues à te battre, c'est milchama, lochem, c'est les mêmes lettres. J'ai pas bougé, hein, je suis toujours dans 3 lettres. Hein. Ça vous suffit ou on continue? Vous comprenez comment ça va loin? Et ça c'est rien encore. C'est pas jouer sur les mots, c'est pas tirer par les cheveux. Okay? C'est parce qu'on n'a pas le temps de tout sortir, de tout ouvrir. Mais si on avait le temps de le faire, vous verrez combien c'est beau. Alors on continue. Donc, il y a la Torah où l'avis est à Kodesh HaMekori à la Metsilut HaTachtona Begilui Nevu'i Objektivi Matan Torah. Donc, qu'est-ce que c'est Matan Torah? Qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est une prophétie. Toute la Torah est une grande prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle fait venir les valeurs
de l'infini dans ce monde. Qu'est-ce que c'est un prophète? Il n'a pas le droit d'inventer quelque chose, un prophète. Il ne fait que véhiculer ce qu'Akadosh Baruch Hu fait passer par sa bouche. Donc en réalité, qui parle? Hachem, à travers la bouche du prophète. Donc en réalité, il l'utilise comme un médium. Le prophète, il est là, il ouvre la bouche, et on entend des voix sortir. Ça fait peur. Un prophète, ça fait peur. Si vous aviez vu un prophète, les sages nous disent, il nous dévoile un prophète, il nous explique comment un prophète prophétisait. Mais tu deviens fou, ça fait vachement peur.
C'est-à-dire
qu'il réfléchit pas,
pas.
Ben non, il peut pas. S'il réfléchit, c'est son propre cerveau, encore une fois, il a rapetissé Dieu. Donc le prophète, il est en état de transe. Il n'est plus ici. D'ailleurs, quand il revient, entre guillemets, qu'il se réveille de sa prophétie, il se demande, ça a duré longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Comprenez? C'est ça la Torah. Moshe le faisait, mais d'une manière naturelle. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin de tomber en transe, ni rien du tout. C'est le seul prophète qui était capable de recevoir la parole de Dieu sans s'évanouir, sans devenir...
Comment ça se fait parce qu'il était un Keli?
Exactement. Parce qu'il était un Keli, qu'Akadosh Baruch Hu a prévu qu'il soit, donc il avait les données nécessaires et suffisantes pour ne pas exploser à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu parlait à travers lui. Ça veut dire que c'est un élément, comment on dit en français, « wahad élément ». Ok? Alors, Moshe Rabbeinu, c'est un morceau, c'est pas de la rigolade. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, on croit que c'est un bonhomme. Ça va loin. Il faut bien comprendre ce que c'est Moshe.
Et aujourd'hui,
eh ben, c'est le Mashiach. Le Mashiach va venir et le Rambam dit qu'il va être avoisinant à la grandeur de Moshe Rabbeinu. Dans certains degrés, il sera plus fort que lui. Et dans un autre degré, un petit peu inférieur à lui, très proche de lui. Mais en réalité, c'est Moshe, en fait, qui revient. C'est la même puissance habillée dans un nouveau corps qui est celui du Mashiach. D'accord ? Ou Mikan, chez l'orak, chez Efchar, les galotes, et Ferke, Hashamaim, à la Haret. Donc, de là, je dois comprendre que non seulement je peux dévoiler les valeurs du ciel sur terre, et là, chez Benosaf, les kar, en milchama, benakomot. Il n'y a pas de guerre entre les deux mondes, les deux étages. Jusqu'à maintenant, on vous a peut-être enseigné qu'il y avait un combat, toujours, nakhon, entre la Neshama et le corps, ils sont toujours en guerre. Mais arrêtez, pourquoi? C'est pas ça du tout. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'être en guerre avec la terre, avec le monde qu'il a lui-même créé. Arrêtez de croire qu'Akadosh Baruch Hu est en guerre avec la matière. Et que l'esprit et la matière se battent. Si tu parles de l'esprit et de la matière comme si c'était deux entités, ça veut dire il y a combien de dieux? Deux, Chas v'Shalom, le dieu de l'esprit et le dieu de la matière. Ça c'est quoi? La Avodah Zara, pure et simple. Alors qu'on dit tous les jours, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Bashamaim ou Ba'aret. Donc en réalité, il y a une unité magnifique et secrète entre tous les éléments. Imaginez-vous que vous commenciez à voir maintenant la vie avec cette unité-là. Mais tu verrais qu'en réalité, la manifestation d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque élément. Tu peux plus dire ça, c'est du profane. Parce que si c'était du profane en réalité, comment est-ce que je fais une bracha? Pourquoi je fais une bracha pour un verre d'eau? Non, pour dévoiler ce qui est en lui, pas pour le rendre, je ne transforme rien du tout. Il est déjà, ce monde s'est caché.
Ah, donc je reconnais.
Exactement. Tu prends contact avec l'élément divin qui le fait vivre. Et comment s'il est la source, qui le fait vivre à ce moment-là, ce verre d'eau?
On peut faire des choses pour être à l'intérieur?
Non. Non. Ça, c'est un peintre. Voilà. La toile est là, elle a mis son esprit, et c'est fini. Maintenant, la toile et le peintre sont séparés complètement. Alors qu'Akadosh Baruch Hu est à chaque instant en train de faire vivre le monde qu'il a lui-même créé.
Oui, il le fait vivre.
Donc, ça veut dire qu'il fait vivre. C'est pas qu'il lance de loin des éclaboussures. C'est qu'il fait vivre par sa parole cet élément liquide à chaque instant.
Oui, par sa parole.
Mais oui, mais sa parole, c'est quoi? C'est un acte réel. Je peux te toucher avec mes doigts, et je peux te toucher avec ma bouche, avec ma parole. Je me demande même qui est plus fort. Tu comprends? Ou nous, aujourd'hui, on a l'impression que c'est distant, mais c'est faux. Les paroles, ça touche. D'ailleurs, on appelle la langue une main. Achaim ve'amavet, la vie et la mort, beyad halashon, dans la main de la langue. C'est-à-dire la main de la langue. Yad halashon. C'est-à-dire que la langue est une main. Et quand je dis quelque chose, ça t'a touché, ça va peut-être te marquer à vie. Alors que si je te fais comme ça, au bout de 5 minutes, c'est fini. Donc, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, son esprit et sa vie, je ne peux même pas dire son esprit, parce que tout ça, c'est des fausses définitions. La vie d'Akadosh Baruch Hu imprègne toute l'existence et ça se dévoile à différents niveaux. Ça veut dire, c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui se dévoile en forme d'eau. C'est toujours Akadosh Baruch Hu qui se dévoile en forme de stylo. C'est toujours Akadosh Baruch Hu qui se dévoile en forme de table. Et il se dévoile en forme d'homme. Et bien entendu, il y a des niveaux de dévoilement. C'est tout. Mais c'est toujours l'infini qui se dévoile selon tous ses degrés. C'est le même infini. Attention. Donc, mitzvat ase, hayechida shenitna la adam arishon. Quelle était la seule mitzvah positive qui a été donnée à l'homme? De manger. Comme il est écrit, mikol et sagan achol tochel. Je te demande de manger. Ve mitzvat lo ta'ase hayechida, et la seule mitzvah négative qui a été donnée, c'est de ne pas manger. De quoi? De l'arbre. C'est pas marqué du fruit. De l'arbre. Il n'y a pas marqué ni pri et, ni kol et hagan, achol tochel. Tu mangeras de l'arbre, pas des fruits de l'arbre. Ça aussi, c'est des fausses traductions. Attention. Comment est-ce que je peux manger des arbres?
Parce qu'à la base, ça faisait même là des
arbres. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire un arbre? C'est le masculin de quoi? En hébreu, comment on dit un arbre?
Et.
Et ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un conseil. Donc en réalité, Adam Arishon, il qu'est-ce qu'il mangeait? Des conseils, c'est tout. Ne tombez pas dans ces erreurs de Chas v'Shalom à rendre tout comme un dessin animé pour enfants. Adam Arishon est en train de se balader tout nu dans des arbres, là-bas dans la forêt, se cacher avec des feuilles de vigne. C'est n'importe quoi. Alors, c'est sympathique à un certain niveau, quoi, mais stop. D'accord? Donc il mangeait des conseils. Donc il y a un conseil à manger, il y a un conseil à ne pas manger si ce conseil amène la mort. Bien fait. Nachon. Mais en réalité, le fruit, c'est que la manifestation de ce conseil. C'est-à-dire que dans notre monde, il y a des porteurs de messages. C'est-à-dire quand je vais prendre par exemple une grenade ou un étrog, ça va être quoi en réalité? Avec ce fameux conseil, habillé dans un fruit. Donc c'est le Kodesh qui s'est manifesté, concrétisé dans quelque chose. Donc en réalité, quelle est l'énergie du étrog?
L'énergie,
bien fait. Comment tu peux la voir dans l'étrog? Avec les lettres qui composent le mot étrog. Aleph, Tav, Resh, Vav, Gimel. Si tu sais décoder ces lettres, tu vas comprendre la nature intérieure du étrog. La génétique du étrog. Alors justement, si Adam Arishon pouvait le faire, c'est ton arrière-arrière-grand-père, donc tu peux le faire. C'est-à-dire que ça fait passer ces gènes-là. Mais si tu rejettes, tu dis oui, lui, il était, mais nous, on est des nals. Et c'est un problème. Parce que tu te diminues toi-même, donc tu te sauves de ta responsabilité, alors que toi-même, tu peux le faire. Donc je résume, on termine le cours, parce qu'on a un film là, je sais pas, ils viennent nous filmer. Il y a Ronnie Attriche qui arrive là. Je sais pas. Il va nous filmer, je sais pas pourquoi. Ok? Alors, je résume ce qu'on vient de dire. Les seuls mitzvot fait et ne fait pas, combien de mitzvot positives il y a dans la Torah?
240.
8. 48. Fais un numéro de téléphone, au lieu du 3, tu fais un 4. Tu vas tomber sur Ibrahim. Salut. Qui c'est celui-là? Quel? Ça va, quoi. Quel? 248. Et combien de mitzvot l'ot a assez? Ok. Maintenant, si je vous dis que la seule ordre qui a été donné au Gan Eden, c'est deux ordres. Mange, ne mange pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mitzvot positives étaient réunies en une seule mitzvah. Mange. Et toutes les mitzvot négatives étaient réunies en une seule mitzvah. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule mitzvah qu'Adam Arishon a reçue, c'était de manger ou de ne pas manger. C'est-à-dire de savoir quand manger. Qu'est-ce que c'est manger? Ça veut dire intégrer. Quand tu manges quelque chose, tu intègres. Là, vous êtes en train de manger un cours. Ça prend? C'est une consommation. Donc, tu es en train d'intégrer des valeurs. Donc, il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc, si tu outrepasses la seule mitzvah de manger de tous les arbres du jardin, c'est comme si tu avais outrepassé toutes les mitzvot positives de la Torah. Donc l'homme, c'est-à-dire vous, nous, tous, est-ce qu'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? Exactement, on vit pour manger. Et dans le véritable sens du manger. Vous avez compris? C'est-à-dire vous vivez en réalité pour une seule chose, pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire pour manger? Pour intégrer des valeurs. Et quand vous faites de ces valeurs-là quelque chose qui fait partie de votre être, alors ça c'est la véritable consommation. Donc attention, ceux qui mangent pour vivre, c'est n'importe quoi. Donc tu peux avoir un titre de film, né pour manger, né pour consommer. Et c'est vrai. Seulement reste à savoir comment consommer. Qu'est-ce que c'est que la consommation? Ça, c'est tout le secret de tout Bishva. Alors, bien entendu, en attendant qu'ils arrivent, si je mange, en réalité, je répare quelque chose. À tout Bishva, on me dit de consommer des fruits. C'est bizarre, quand même. C'est comme si on me disait quoi? L'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est autorisée maintenant. Tu comprends? Puisque, qu'est-ce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y a plusieurs degrés dans la Gemara. Certains disent que c'était un étrog. Certains disent que c'était une fille. Certains disent que... Mais toi, tu manges tout ça à tout Bishvat, d'accord? Donc en réalité, tu manges tous les fruits pour au moins toucher un qui est bon. C'est-à-dire, tu as le droit maintenant de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le temps de la réparation de la faute du premier homme se fait quand? À tout Bishvat. C'est énorme.
On disait que tout Bishvat, c'est pas sur la Torah, c'est un minaï.
Qu'est-ce que veut dire un minaï? Tu crois que ce qui est écrit dans la Torah, c'est révélé comme ça? Tout Bishvat, c'est écrit dans la Torah. Comment? D'une manière codée. C'est-à-dire, tout Bishvat, c'est quoi? Si la Torah orale vient et amène cette fête de tout Bishvat, c'est qu'elle parle de quoi? Qu'est-ce que c'est tout Bishvat dans la Torah? Dans la Torah orale, dans la Mishnah, dans la Gemara. C'est pas comme on fait aujourd'hui. Non, à part la signification profonde. Il y a fait. C'est-à-dire, les maastrotes, la dîme que tu donnais, des fruits, tout ça, ceux qui étaient... Quand est-ce qu'on passe d'une année à une autre? À tout Bishvat. D'une manière profonde, maintenant, tu as raison, ça c'est le deuxième degré. C'est de comprendre qu'en réalité, il s'agit ici de réparer la faute du premier homme. Or, la faute du premier homme, qu'est-ce qu'elle a apporté au monde? La mort. Donc, si tu sais maintenant vivre tout Bishvat, qu'est-ce que tu es censé faire? Révéler l'infini, donc ramener la vie au monde. Tu te rends compte? C'est énorme. Ça veut dire que normalement, si on vivait tout Bishvat comme il se doit, demain matin, on devrait être immortel. Parce que c'est ce soir, tout Bishvat. Seulement, si à chaque fois qu'on dit une chose pareille, il y a un petit sourire qui se dessine au bout de tes lèvres, c'est-à-dire que... Il nous raconte des salades, bon, mais... De là à ce que ce soit vrai... Alors, mais est-ce que nous sommes capables de le faire? Oui. C'est pour ça qu'on fait. Sinon, tout est une mascarade, c'est n'importe quoi. Sinon, toute la Torah, c'est un jeu, c'est n'importe quoi. On fait des machins, des actes symboliques, allez, on fait un truc, une soirée, guitare, machin, avec des fruits, machin. C'est pas ça. On fait pour réparer, pour réellement amener à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Tout à l'heure, on a commencé le cours en disant que je dois faire amener les valeurs de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que c'est les valeurs d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi, lui? La vie. Donc, tant que la vie n'est pas dans ce monde complètement, j'ai encore pas réussi ma mission. Quand est-ce que j'aurai réussi ma mission? Lorsque la vie reviendra dans ce monde. Donc, la mort sera annihilée de ce monde. Quelqu'un C'est un ordre ponctuel qui vient d'une exception de Dieu. En réalité, ça rejoint ta même question de tout à l'heure. Non, c'est pas toute la vie. Ça, c'est un homme. C'est un homme, c'est pas pour tout le monde.
Oui, non, c'est
tout, mais c'est tout à lui. Peu importe. Non, peu importe, parce que lui ne pouvait pas le faire autrement. Donc, il va lui créer un autre système de couple, ok? En enlevant le couple normal de ce monde. Mais ça, c'est pas une halakha que tu peux donner aux hommes. C'est-à-dire, la majorité, des fois, il y a des exceptions. Comme ta fameuse question de tout à l'heure. Comment ça se fait que la Avodah Zara est interdite dehors, et pourtant les chérubins, ils sont dedans? C'est la même question que tu as posée. Sous différentes formes. Quand il y a un ordre divin que pour lui, c'est comme ça que ça doit être, il y a un retour. Mais ce n'est pas un idéal. Oui, il y a des hommes, Kakadosh Baruch Hu, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils entendent réellement une prophétie ou des imaginations? Ça, c'est différent. Aujourd'hui, on peut être plein d'imagination, mais où est la prophétie? C'est bon?
Ok.
Toda Rabba.
Toda Rabba.
Qu'est-ce qu'ils foutent?